Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. J'espère que vous allez bien. Ça va au niveau du son? On m'entend? À peu près? Alors j'ai une voix grave, je le sais. Donc je laisse un peu la sono se préparer à essayer de me capter. Alléluia. C'était intéressant ce matin, quand on est arrivé dans ce temps de louange. J'ai pas mal de choses que j'avais prévues de faire, en fait, ont déjà été faites. Donc je disais, ah, zut. Ah, zut. Ah, c'est pas mal. Du coup, ça enlève des briques à ce que j'avais prévu. Mais en même temps, Dieu est souverain et je pense qu'il fait bien les choses. Alléluia. Ah. Et en même temps, comme par exemple, j'avais envie qu'on puisse un temps de prière et de bénédiction les uns sur les autres. Voilà, c'est fait. Et en même temps, on a beaucoup parlé de 2016, et donc c'est vraiment quelque part quelque chose que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on puisse proclamer des choses sur 2016. Ce que je voudrais qu'on se fasse dans un tout premier temps, c'est on va prendre un temps d'écoute de Dieu. Je veux dire, qu'est-ce que Dieu va vous demander de proclamer sur l'année 2016 ? Peut-être que vous avez déjà écouté durant la semaine ou dans les 15 derniers jours. Peu importe. Si vous l'avez reçu il y a 10 jours, vous le gardez. Et j'aimerais que, vers la fin, on puisse prendre 10 minutes, un quart d'heure de proclamation. Ça marche ? Donc on va prendre un petit temps d'écoute pour vous dire qu'est-ce que tu proclames toi sur l'année 2016, Seigneur ? Pas ce que nous disent les informations, pas ce que nous disent nos sentiments, nos émotions, pas ce que disent les uns et les autres. Qu'est-ce que toi tu dis aujourd'hui sur 2016? Et alléluia. Je serais même d'accord d'avoir un peu de musique. Je veux bien chanter, mais je ne sais pas si ça aide. si c'est possible, merci beaucoup. Alléluia. Et simplement, papa, tu viens, tu parles dans nos cœurs, tu parles dans nos esprits. Et tu nous donnes de proclamer ta parole. merci parce que tu nous emmènes dans une danse passionnée, dans une danse de vie. Tu danses avec nous. Tu danses avec chacun de ceux qui sont là. Tu danses avec notre nation. Merci pour cette eau qui monte, qui monte, qui monte, qui nous envahit. Et là, dans ces lieux, on laisse tomber la crainte et la peur. Dans ce lieu de sécurité, on laisse tomber tout ce qui est crainte et peur. Et on se laisse juste envahir par ton amour, par ta bonté, par ta présence, par ta sécurité. Merci pour les flots, papa. Même si c'est court, je crois que Dieu impacte nos vies. Que Dieu a des choses à dire sur cette année. Et je peux le faire d'ici tout seul, comme un grand, entre guillemets. Mais je crois que c'est beaucoup plus important que le corps le fasse. Que chacun de vous puissiez venir et dire voilà ce que je proclame maintenant sur cette année 2016. Et c'est pour ça que je dis, vous l'avez déjà fait. Dans tout le processus de la louange, depuis le départ, dans ce que Nani nous a conduit jusque dans les champs, c'était « je vous emmène là, je vous emmène dans cet endroit-là pour proclamer quelque chose sur cette année ». Et cette proclamation, elle a été faite pas mal au niveau personnel déjà, et c'était la première étape. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse la faire sur deux autres niveaux, à la fin de ce que je vais apporter peut-être, c'est sur l'Église, en tant que corps, sur Josué, et après sur la nation et les nations. Qu'on puisse proclamer des choses sur notre nation de France, qu'on puisse proclamer ce que Dieu a à dire sur notre Église. Et je crois qu'on a besoin les uns des autres. Parfois, on n'est pas du tout conscient de ce qui bouillonne en nous, en bien ou en mal. Et c'est à ce moment-là où c'est tellement important d'avoir besoin les uns des autres. Et ce que j'aimerais vous défier, c'est est-ce qu'on peut être un tout petit peu de ceux qui éveillent la conscience des nations ? Je parlerai de plusieurs passages où, dans la Bible, on voit que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et ce serait tellement important qu'on puisse se réveiller, qu'on ait cette conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie et dans celle des autres. Est-ce qu'on pourrait être de ceux qui éveillent la nation à entrer dans son héritage ? Et on le fait déjà. Je sais qu'on a pas mal de temps, on a déjà proclamé des choses, mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin. Et juste pour vous montrer à quel point parfois on peut être inconscient de nos comportement de ce qu'on vit. Je vais prendre plusieurs passages bibliques et je vais essayer de vous emmener là-dedans. Alors je dirais que plusieurs passages, moi-même j'ai été un peu surpris et même un petit peu embêté. Quand Jésus parle aux sept églises dans l'Apocalypse, il parle pas à une église, mais aux sept. Et dans chacune de ces églises, il va dire des choses plus ou moins facile, et d'autres bonnes. Et j'étais surpris de voir à quel point le message était fait de manière générale. Et il invite les gens à faire attention à ce que Jésus dit aux églises, ce que l'Esprit dit, et dit bien aux églises. Donc ces sept lettres ont été données dans le réseau d'églises de l'époque. Alors, ce n'était pas le réseau héritage, je ne sais pas comment ce qu'il s'appelait, mais dans le réseau de l'Église de l'époque. Et je me suis dit, mais est-ce que moi, j'aurais aimé qu'on entende certaines choses sur mon Église? Oups. On parle de la bonté de Dieu, mais est-ce que là, elle est manifeste? Et je crois qu'elle était manifeste. Et je vais vous dire pourquoi. Nous, ici, on a 2000 ans d'écart, et on voit ce qu'on voit avec le décalage, comme dans un livre. Mais ces gens-là étaient dans un réseau. Ils se soutenaient les uns les autres. Et on a déjà vécu ça, où parfois, des choses difficiles, quelqu'un qui vit soit dans le péché, soit des difficultés sont dans sa vie, et elles sont manifestées. À ce moment-là, il y a deux positions à avoir. Soit on est dans le jugement, la condamnation, soit on est dans le compassionnel, mais on est dans le compassionnel qui relève. On avait fait un séminaire il y a quelques années de ça, qui s'appelait L'âme, Love After Marriage, l'amour dans le mariage. Et dans les dizaines de couples qu'il y avait là, il y a des choses tellement difficiles que chacun de ces couples vivait, qui ont été dévoilées au milieu de la pièce devant tout le monde. Mais au lieu du jugement, qu'est-ce qui était manifesté à chaque fois? C'était des larmes de compassion. Alors que les choses étaient dévoilées, ce qui était manifesté, c'était l'acceptation de l'autre. Ce n'était pas du jugement, de la honte. C'était « je t'aime tel que tu es et je souffre de voir comme toi tu as souffert. Je souffre dans tes addictions, je souffre dans tes errements, je souffre dans tes douleurs. » Et je crois que les églises de l'époque vivaient ça. Et dans ce contexte-là, on peut dire à quelqu'un, là il y a un péché. Parce qu'on n'est pas dans le jugement. Alors juste pour reprendre, ça c'est pour mettre un contexte, j'espère que je ne me trompe pas trop. S'il y en a qui me disent, pour me dire après si je me trompe. En tout cas, la première église, c'est celle d'Éphèse. Il lui dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Comment cette église ne s'est pas rendue compte de là où elle en était arrivée? Comment elle n'a pas vu, elle n'a pas compris où elle en était arrivée? À Smyrne, les tribulations vont arriver, mais un courage simplement à continuer. Pergame, j'ai contre toi que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent et viennent sacrifier aux idoles, et qui se livre à la pudicité. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans l'église de Pergame, ils n'aient pas vu ça? Thyatire, j'ai contre toi que tu laisses une femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la pudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Waouh. Je n'aimerais pas être cette église-là, non plus. À Thyatire, il incite vraiment à continuer à garder. Sardes, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Moi, j'aurais aimé que si je semblais être vivant et que je sois mort, quelqu'un me dise « Hé, fais attention. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Philadelphie, c'est vraiment très positif. Philadelphie, je te connais, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je crois qu'à ce moment-là, quand on entend ce genre de paroles, on se dit, mais de loin, ça a l'air facile, mais enfin quand même, la tiédeur, ça se voit. Mais la déclaration de Jésus est, tu ne sais pas. Tu ne te rends même pas compte de dans quel état tu es. Tu dis, je suis riche, mais je ne suis pas riche. Tu es pauvre, aveugle et nu. Et c'est là où on a tout à fait besoin des uns et des autres qui proclament des choses dans notre vie pour commencer à changer. Pour autant, encore une fois, attention à ne pas rentrer dans le jugement. Matthieu 7, il est dit, j'aime beaucoup ce passage. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Comment éviter d'entrer en jugement? Ne pas juger. Car on vous jugera du jugement que vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure que vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et tu n'aperçois pas la poutre dans ton propre œil? Là, pareil, il y a de nouveau un problème, c'est qu'on est capable de voir les problèmes chez les autres, et puis dans notre propre vie, c'est un peu difficile. Toujours dans des comportements ou des positions où on peut se tromper, on va aller un peu plus loin, c'est dans Matthieu 25, on a les 10 vierges. Elles sont là, apparemment tout est bien. Et elles prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et finalement, il dit que 5 sont folles. Si elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient folles, est-ce qu'à votre avis, elles seraient restées folles? Je ne crois pas. Et je vais encore passer par ce passage de Matthieu 25, qui est un peu plus long, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra en sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et là, on imagine bien Jésus qui revient, il est dans la gloire, les anges sont là, et il y a ce magnifique trône qui est là. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les unes avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondent, « Seigneur, quand avons-nous avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et ne m'avait pas donné à boire. J'étais étranger, et ne m'avait pas recueilli. J'étais nu, et ne m'avait pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et dernier passage, Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc il y a des choses dont on est conscient, on sait qu'on les fait. Et ça, c'est pratique, parce qu'on voit où on va. On peut évaluer notre comportement, nos agissements, nos actions en fonction de ce que l'on voit. Si on fait du bien à quelqu'un et qu'on le sait, on peut en retirer quelque part une certaine forme de plaisir ou de satisfaction et une conscience de ce qu'on a fait. On sait que ça nous est compté dans le positif. Inversement, quand on fait du mal à quelqu'un, on le sait aussi. Alors il y a cette fameuse blague qu'on a vue. J'aime pas faire souffrir quelqu'un inutilement ou gratuitement. Donc, quand je lui mets une baffe, je lui donne 1 euro. que les choses sont parfois évidentes, blague, et d'autres, pas. C'est intéressant parce qu'au début du 25, verset 34, le roi dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Le royaume vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est comme si quelque chose avait déjà été préparé pour eux. Et quand il leur dit « J'ai eu faim, on m'avait donné à manger », que répondent les personnes ? Quand ? Mais quand ? Quand c'est que tu as vu avoir faim ? Alors c'est vrai, on peut dire oui, mais c'est parce que c'était Jésus et Jésus s'incarne dans tous les êtres vivants. Parce qu'il dit, voilà, chaque fois que vous l'avez fait, c'est plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. N'empêche que ça, plus ou moins, je pense qu'on le saurait. Et de même, ceux qui n'ont pas compris, parce qu'ils n'avaient rien fait, ils ont dit, mais quand ? Quand ? Donc le fait de n'avoir pas conscience de ce qu'on fait de bien ou de pas bien peut être positif comme préjudiciable. J'aimerais juste attirer votre regard sur la réponse des justes. Verset 37. Le premier mot qui m'a intéressé, c'est « les justes lui répondront ». Qu'est-ce qu'il leur est donné comme qualificatif ? On les déclare justes. Est-ce qu'on n'a pas travaillé déjà sur la justice ? Est-ce que, de cette manière, ceux qui répondent n'ont pas reçu ce vêtement de justice ? Personnellement, je me suis dit, mais on peut être très proche. Dès le départ, la séparation est faite entre les boucs et les brebis. Ça peut être très similaire, mais une séparation qui est faite. Et on peut voir l'apparence de la justice et ne pas être juste. Et je crois que quand on est juste, qu'on est justifié, on va commencer à avoir des actions de juste. Parce que mine de rien, si ce passage ne nous parle pas de la justice de Dieu et ne nous parle pas de notre état de juste, ça veut dire que notre salut, on peut l'acquérir au travers des œuvres. Ce qui serait quand même un comble. Si le fait de faire simplement du bien nous permettait d'acheter notre salut, ce serait par les œuvres. Et je crois que la première chose à voir dans ce texte, c'est les justes. Ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, ils sont capables de voir. Et ils vont recevoir cet héritage. Quel est, parfois dans vos Bibles, vous avez un titre au début de ce passage de Matthieu 25. Moi, j'en ai trouvé un, et on l'appelle ce texte-là, le jugement des nations. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éveiller notre nation, et pas simplement notre conscience à nous personnelle. Est-ce que c'est possible que dans ce passage-là, il parlait pas simplement d'un jugement personnel, mais d'un jugement au niveau d'une nation ? Qu'il est parlé de quelque chose au niveau d'une nation. Parce qu'au début, Jésus rassemble les nations. Et est-ce qu'il serait possible que pour nous, en tant qu'Église, alors que on est là et qu'on connaît Dieu, est-ce qu'on n'a pas notre rôle à jouer pour que les nations ne rentrent pas dans un jugement de malédiction, mais arrivent dans un jugement de bénédiction ? Où elles rentrent dans leur appel, où elles rentrent dans ce que Dieu a prévu pour elles. Moi, je crois que Dieu nous donne une terre. Dans ce passage que Luc a déjà abordé il y a 15 jours, 3 semaines, Il est dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a le fait d'honorer ses parents. Il y a le fait de donner, comme Luc l'a porté si bien il y a 15 jours, ses parents aussi spirituels, ses parents, ces personnes qui nous ont précédés, nos pères, nos mères. Et la finalité de tout ça, c'est que nos jours vont durer longtemps dans un pays que l'Éternel te donne. Ce n'est pas à nous de conquérir un pays. Qui c'est qui nous donne le pays? C'est lui. À l'époque, bien sûr, pour Israël, c'était Israël. Et pour nous, quelle nation que Dieu nous donne? Alors, généralement, quand on est en France, ça va être la France. Quand on est en Allemagne, c'est plutôt l'Allemagne. Mais il y a eu des personnes qui sont parties tellement loin. Je suis en train d'oublier son nom. Il y a cet homme qui est parti en Chine au 18e siècle, 19e, et Hudson Taylor, anglais, il a travaillé dans son pays. Mais le pays que Dieu a mis sur son cœur, que Dieu lui a donné, c'était pas l'Angleterre, c'était quoi? C'était la Chine. Yon Rivo, il n'est pas là. Il est où? Il est en Chine. Dieu a mis quelque chose dans son cœur pour ce pays. Quels sont les pays que Dieu t'a donné pour que tu éveilles leur conscience, pour que tu les amènes dans le chemin de la foi, pour que tu les amènes dans le lieu de bénédiction, pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils aient conscience de ceux qu'ils ont, de quel est leur appel, et qu'ils sont appelés à être une bénédiction pour les nations. Je crois qu'on a ce mandat. Et en tout cas, en ce début d'année, j'aimerais qu'on puisse proclamer cette vie. Et je vais commencer par lire ce passage d'André de Benet. Cette parole qu'on a reçue au mois de novembre. Je vais faire de cet endroit un carrefour pour les peuples d'Afrique, d'Allemagne, du Canada, de partout. Il y a une montée de l'Éternel ici qui va fédérer les nations, pas seulement dans l'enseignement et l'éducation, mais un carrefour pour la parole prophétique et la célébration dans les nations, un carrefour pour guérir les malades. C'est le temps, dit le Seigneur, une montagne comme la montagne de Sion est dressée à Jérusalem. Dieu dresse une montagne pour les peuples ici. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce moment-là où on éveille la conscience des nations. Jésus. Et j'ai beaucoup parlé des fautes au début de ces nations-là, en tout cas ces églises. Voir une faute n'est en rien le permis de juger. Je l'ai déjà dit, mais je le reviendrai dessus. Voir une faute, c'est simplement l'autorisation d'avoir compassion, d'aider à redresser peut-être s'il le faut, mais certainement pas juger. Et c'est ce que fait, je pense que Nadine pourrait, toute l'équipe Sozo avec Denis et Angela, ils voient souvent ce genre de choses dans le Sozo. Des gens qui ont vient avec leurs problèmes, ils dévoilent leurs problèmes et ils sont redressés. Et on peut voir les problèmes de la nation de France et la condamner. Ou bien on peut voir les problèmes de la nation de France et dire, moi je vais chercher la nation de France là où elle est. Je terminerai là-dessus avant qu'on prenne ce temps de proclamation. Souvent dans le ministère pastoral, comment est-ce que vous imaginez le ministère pastoral? On voit quelqu'un qui est souvent prêt à écouter, comme un psy, qui écoute, qui accompagne, qui est bien gentil, bien posé. Quelqu'un qui a un vis-à-vis, mais qui est en général assez placide, plein de bonté. Est-ce qu'il est possible que le ministère pastoral soit légèrement différent? Dans Pour moi, un des exemples du ministère pastoral, c'est David. Et David, il était berger. Est-ce que vous avez déjà vu un berger dans les montagnes? Honnêtement, je ne sais pas si je voudrais être berger dans les montagnes. Quand nous, on part en bivouac avec des amis ou nos fils, on a 20 kilos sur le dos pour 2 jours. On a le sac de couchage, la bâche, toute la nourriture qu'il faut, et on est bien au chaud, pour se protéger de la pluie. Mais le berger, il est où, lui? Il part pour des semaines et pour des mois, au milieu de quelque chose de très difficile. L'année dernière, cet été, alors qu'on marchait en montagne dans les Alpes, j'ai vu des bergers pour les vaches dans les montagnes suisses. Je les ai vus dévaler la pente, remonter chercher les vaches. Waouh ! Et ils montaient et descendaient. C'était vraiment une débauche d'énergie incroyable. Et il faut être solide physiquement, solide dans sa motivation pour faire ça. Quand David était berger et que les brebis étaient attaquées par le lion, quelle était sa réaction? Il laissait faire? Non. Non seulement il laissait faire, mais il avait arraché la brebis de la gueule du lion. Comme ministère pastoral, je trouve que c'est pas mal. Quelqu'un qui ait du courage pour se lever, pour aller chercher une brebis dans la gueule du lion, qui se lève pour défendre avec le bâton face à l'ours et au loup. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on est appelé. Et que même si notre nation parfois peut tomber dans des erreurs, notre mandat, c'est d'être là comme des lumières, qui appellent la lumière à grandir, à venir. Et que là, la nation est dévorée, on dit stop. C'est le temps pour la nation de se relever. C'est le temps pour la nation de découvrir qui elle est. Jésus. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. On va prendre ce temps de proclamation pour ceux qui le désirent. Il est midi et quart. Je vais peut-être commencer. Je pense que Dieu vous a donné des choses. Et tout à l'heure, quand je suis venu au micro, je suis reparti. Il y avait ce chant qui disait, mais ouvrez les portes, ouvrez les portes. Et moi, je veux ouvrir les portes de 2016. Je veux ouvrir les portes du temps. Aujourd'hui, en 2016, je veux ouvrir les portes du temps afin que dans ce temps-là, en 2016, l'espérance augmente. Qu'en 2016, la foi augmente. Que l'assurance augmente. Et papa, tu nous dis que tu nous as donné les clés afin que l'on ouvre et on ferme. Et on veut fermer les portes du désespoir. En 2016, on ferme. On ferme ces portes au désespoir. On ferme les portes de la haine. On ferme les portes du doute, de l'insécurité. On ferme ces portes dans le nom de Jésus. Et on ouvre les portes d'une pleine assurance. On dit que c'est le temps pour la nation de France de se relever encore des décombres où elle est, pour marcher en pleine lumière, pour marcher en pleine autorité et pour bénir la nation de France elle-même, mais les nations autour d'elle. C'est le temps pour la nation de France de se relever, de secouer la poussière accumulée sur ses vêtements depuis des années, de secouer la poussière. Et je secoue la poussière de 2015, tout ce qui a été posé en 2015, je veux le secouer dans le nom de Jésus, afin que 2016 soit différent. On ne veut pas rentrer en 2015 comme en 2016. On enlève 2015 pour rentrer dans 2016. Et papa, on annonce une année de grâce. Une année de grâce pour la nation de France. Une année de grâce, de réjouissance. Une année où elle va être relevée. Jésus. S'il y a d'autres qui veulent venir, je vous invite juste à vous approcher du micro. Alléluia. Kolia vakala macha. Jesus.
Une année où Dieu veut enlever la peur par le fait qu'on regarde sa majesté.
Plusieurs peuvent venir.
Je proclame que l'année 2016, Seigneur, tu vas toucher ton peuple pour que les regards sur les immigrants voient ton regard et que la compassion grandit et que tu auras trouvé toute demeure pour ces immigrants, pour ces personnes que nous aimons, que tu aimes surtout. Et nous voulons vraiment que tu agrandisses ça en nous, qu'on les aime, qu'on les reçoive comme toi tu le veux, Seigneur.
C'est pour une proclamation, mais tout d'abord, j'ai vécu une parabole le 1er janvier. Je voudrais aller pour la partager parce qu'elle est pour nous tous. C'est une parabole vécue, en fait. Le 1er janvier, vers midi, je suis allée sur les hauteurs, là, et il y avait un soleil radieux. C'était un soleil chaud même, vraiment chaud. Et il y avait beaucoup de convivialité. On se parlait avec les promeneurs, c'était le 1er janvier, enfin... Vraiment une super ambiance là-haut. Et puis, incroyable mais vrai, j'ai même vu un arbre en fleurs. Des petites fleurs roses de printemps, quoi. Impressionnant. Et puis, je suis allée jusqu'à la Croix de Mission et là, oh, surprise. Alors, autant la vallée de Guebwiller était dans une lumière vraiment éclatante, mais la plaine Alsace, complètement sous les ténèbres, quoi. Hein, une nuée obscure. Et cette nuée obscure, elle arrivait à grande vitesse et elle allait remplir la vallée de Guebwiller, mais moi j'étais au-dessus, j'étais vraiment au-dessus, et dans le soleil, et je regardais ça, j'ai pris plein de photos, j'avais jamais vu ce phénomène-là, parce que c'était très bas, une nuée très très basse, mais moi j'étais dans la lumière, et le verset qui est venu avec, c'était, je voudrais le dire comme une proclamation, c'est le Ésaïe 60, dans la version Semeur, c'est très, très parlant, les ténèbres, voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Et je peux vous dire, la nuée, elle avançait à grande vitesse. Parce que, en plus, c'est en mouvement. On pourrait dire, les ténèbres sont en train de recouvrir la terre. Une nuée sombre recouvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève lui-même comme un soleil. On verra sa gloire apparaître sur toi. Et le verset 1, c'était, vous connaissez, hein, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Donc il y a ce contraste très fort. Lève-toi, resplendis, cette lumière chaude, ce soleil de justice, ces rayons de guérison, ils sont là, ils sont vraiment là. Et puis il y a cette nuée sombre sur les peuples. Mais au verset 3, il nous dit « Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Il y a un désir des nations, parler des nations, il y a un désir des nations de voir cette lumière. Ils ont besoin de cette lumière. Et quand on plonge dans cette vallée, je peux vous dire, il y avait le froid, il y avait pas mal de degrés en moins. Il y avait le froid et on ne voyait plus rien. C'était sombre, c'était triste. C'était triste, et c'est incroyable. On disait, mais voilà, c'est important que nous, on marche sur les lieux élevés, à la lumière de la gloire de Dieu, parce qu'il y a la chaleur, il y a la guérison, il y a tout. Et après, amener l'espérance en bas, quand les gens qui sont dans la brume, dans cette nuée sombre, il y a une espérance qu'on peut leur amener. Et bon, une deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est venu très fort tout à l'heure pendant le culte, il y a deux choses qui se font en simultané. À la fois des violentes bourrasques qui abattent les arbres et qui font tomber les feuilles mortes. Ces violentes bourrasques, on les a vues hein, en janvier 2015, en novembre 2015, on a vu ces violentes bourrasques. Mais et on pourrait focaliser, les médias bien sûr focalisent ça sur ça. Mais ce qu'on ne voit pas, il y a une germination incroyable de plein de choses nouvelles. Mais il y a une parole qui dit un arbre mort qui tombe, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de fracas. Une forêt entière qui germe, c'est silencieux. Et je peux vous dire qu'il y a une forêt entière qui germe. Et dans cette forêt qui germe, nous, on voit que le côté simplement éducation, mais on pourrait peut-être dire pareil pour d'autres secteurs, hein, mais pour l'éducation, je peux vous dire qu'il y a une grande forêt qui germe, et pas que la cinquantaine de projets d'écoles chrétiennes évangéliques. Dans le monde catholique, ils sont en train d'avoir des choses formidables dans les vallées les plus sombres du pays, c'est-à-dire les banlieues sans espoir. Il y a des écoles de l'espérance, ils appellent ça le réseau de l'espérance, école de l'espérance, c'est extraordinaire. Et il y a des dizaines, je crois même des centaines de projets de ces écoles dans les zones les plus défavorisées. Et merci Seigneur pour toute la germination incroyable dans ce pays. Alors Seigneur, je veux bénir ma nation et dire Seigneur, oui, tu... Ne voyez pas, il y a une chose nouvelle qui germe, tu dis dans Ésaïe, une chose nouvelle en germe. Et voici, je connais dit le Seigneur, sur le pays de France, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et je dis l'avenir et l'espérance dans les écoles de France, dans, spécialement les écoles publiques de France. Un avenir, une espérance, espérance dans les banlieues, espérance au milieu des réfugiés qui viennent dans notre pays, espérance, et qu'on soit un peuple bourré, débordant d'espérance et de joie. Amen.
On l'a déjà chanté tout à l'heure, mais j'aimerais proclamer sur ma vie une année de consécration, sur l'Église une année de consécration, et aussi sur la nation que le peuple de France se consacre à Dieu. Voilà.
Je remercie le Seigneur, et il m'a mis à cœur que je t'ai continué à prier pour Magali, parce que c'est elle qui a fait le chemin avec moi. Et c'est grâce à elle que Magali m'a présenté Irène Widmer, et c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire, et que le Seigneur il te bénisse, Magali, parce que tu as un rendez-vous spécial avec le Seigneur, parce que tu es l'aînée de la famille et c'est toi qui veux que tu te donnes, parce que c'est toi qui devras ouvrir le chemin à travers tes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur. Amen.
Alléluia. Moi, j'ai deux choses. Je vais juste changer un petit mot. Tu me pardonnes, Seigneur. Donc, la France qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, ou bien on croit ça, ou bien on ne le croit pas. Donc on est dans deux camps où je crois que le Seigneur il va faire quelque chose ou je ne le crois pas. Donc tu as une position, j'ai une position à tenir dans le lieu secret avec le Seigneur, et il n'y a que le Seigneur qui sait si tu es dans le lieu secret. Et l'invitation, je crois, pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est, et personne ne peut dire qu'il y est arrivé, c'est d'être dans ce lieu secret, là où il y a la présence de Dieu et là où il y a Dieu qui te parle. Pas toi, tu parles à Dieu, mais Dieu qui te parle. Donc, moi, je vous invite d'arrêter de faire vos courses devant le Seigneur, mais de lui le laisser faire et vous donner ses courses à lui. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup parlent de ministère, hein, mais un ministère, c'est être serviteur les uns des autres. Et Yeshua, ce qu'il veut, et ça c'est certain, c'est qu'il veut qu'on prenne du temps avec nous. Là, le dimanche dernier, Anne nous a rappelé l'importance de la parole. Et la problématique de beaucoup d'assemblées, c'est que nous n'avons pas la fondation de la parole de Dieu. Et dans ce que Vito il a partagé par rapport aux églises de l'Apocalypse, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai le jour où la tentation elle va venir sur le monde. Donc, on n'a pas besoin de craindre ce qui vient, parce que si tu es vraiment enraciné dans le Seigneur, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je suis beaucoup réjoui parce qu'il y a, parce que Dieu nous a donné des yeux aussi pour voir, et il y a des jeunes couples qui sont en train de se former parmi nous, et je vous donne juste un petit avertissement de la part du Seigneur, ça ne veut pas dire parce que vous cheminez que vous êtes déjà marié. Donc soyez vigilants et je vous encourage à avoir des référents. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est sérieux et l'ennemi, il attaque cette fondation. Donc je vous encourage à être vraiment transparent, déjà envers vos parents, mais pas que envers vos parents. Demandez au Seigneur à ce qu'il vous montre les gens avec qui vous voulez aller. Et la dernière chose, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup d'enfants de chrétiens, mais Dieu, il te dit, arrête et viens en tant que fils. Ne base pas ta vie chrétienne sur tes parents. Je veux que tu viennes vers moi en tant que fils de Dieu.
Moi, je veux simplement proclamer ces versets sur la France. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Et dans le même passage, il est marqué, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et c'est vrai, quand on écoute les médias, quand on regarde autour de soi, des fois on peut se dire, on a honte. Non, Dieu n'a pas honte de la France. Dieu se réjouit parce qu'il a des projets de paix et de bonheur, ça a déjà été dit. Mais vraiment, réjouis-toi France, réjouis-toi parce que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Et on veut garder les yeux fixés sur le roi des rois. On ne veut pas regarder au travers des yeux des médias. On veut regarder, on veut te regarder, on veut te voir, toi, notre beau pays, au travers des yeux du Père.
Je veux proclamer sur la France pour 2016 une plus grande manifestation de la puissance de Dieu, du surnaturel, des signes, des miracles, des guérisons et des résurrections, une plus grande mesure. Et aussi, je veux proclamer que les cancers vont partir et qu'on va avoir de plus en plus de guérisons de personnes qui ont des cancers, dans le nom de Jésus.
Je veux proclamer que le peuple français sera amoureux de Jésus, amoureux du Papa, amoureux du Saint-Esprit, amoureux de la présence de Dieu. Je veux proclamer qu'il n'aura pas d'autre option que de se réfugier dans la présence de Dieu, de chercher des solutions dans la présence de Dieu. Je veux proclamer que chacun ici, nous serons des maisons de prière, chacun au lieu de travail, que ce soit avec les élèves ou à l'école ou au lycée, à la fac, nous serons, parce que la présence de Dieu demeure en nous, des maisons de prière à nous tout seuls, et nous apporterons la présence de Dieu, nous changerons les atmosphères dans le nom de Jésus, nous changerons les atmosphères. Je veux proclamer aussi que les chrétiens de France ne seront plus stigmatisés mais donneront envie, que l'espérance qu'ils porteront donneront envie. Je proclame aussi que les gouvernants se tourneront vers des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour rechercher les solutions qui viennent d'en haut. Je proclame vraiment que les chrétiens seront des références d'intégrité pour cet État. Je proclame une belle collaboration franco-allemande, Seigneur Jésus. Je proclame que nos deux peuples marcheront ensemble et apporteront l'espérance à l'Europe, aux nations, sur une lumière dans le nom de Jésus. Merci Papa, merci Jésus, parce que tu choisis aussi des vases d'argile tels que nous sommes pour porter ta lumière partout. Et merci de nous avoir choisis tels qu'on est, avec nos erreurs, avec nos faiblesses. Merci parce que tu transportes ta vie et ta vie en abondance. Et j'ai ce passage qui me revient encore et encore cette année. Enfin, Dieu me matraque avec ça, grâce à Shafika, à Giovanna, à d'autres personnes comme ça, qui dit, je vais y arriver, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite. » Amen.
Émilie, tu m'as pris la plupart des paroles, mais ça ne fait rien. Moi, ce que je proclame, oui, c'est que vraiment, que nous soyons remplis de la plénitude de son esprit, afin que nous attirions encore beaucoup, beaucoup d'âmes à son appel. Merci.
Alors, je l'ai déjà fait pour moi-même, en abordant cette année 2016. Je crois que Dieu nous demande de ne pas être sages à nos propres yeux. Et ce que je veux proclamer sur vous tous, c'est vraiment la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de Dieu. Et je crois que Dieu veut... Je crois que Dieu veut vraiment m'amener personnellement, mais je pense beaucoup d'entre nous, à sortir de nos zones de confort. Et je pense que c'est vraiment ce que cette folie de Dieu va nous amener à faire. Parce que... ouais, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Merci.
Amen. Je veux proclamer pour 2016. Il m'a montré qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui vont changer leur voiture. Il y aura des personnes qui vont changer aussi d'appartement en maison. Et aussi qui vont changer leur veste spirituelle. Et il y aura encore beaucoup des miracles et des prodiges cette année. Beaucoup, beaucoup. Mais Dieu nous demande une chose. Aspirons la sainteté. Marchons dans la sainteté de Dieu. Et là, aura encore plus des miracles et des prodiges. Seigneur, je proclame, Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, marcher selon ton cœur, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, se conduire selon ton Fils, Jésus, Seigneur. Que notre modèle soit Jésus. En tout le temps, Seigneur. Et merci, Papa, parce que tu es grand et tu nous aimes, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour cette année. Et qu'on puisse, Seigneur, crier à toi en chaque moment et voir ta main agir. Amen. Amen.
Eh bien, moi, je veux proclamer l'unité de l'Église. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup d'églises indépendantes et... voilà, un peu partout, et merci Seigneur pour ça, mais vraiment je voyais le cœur du Seigneur en disant, mais c'est un, mon église, elle est une seule, et il aime comme ça son église. C'est vrai qu'ils sont tous différents, on a plein de ministères et tout ça différents, mais le Seigneur il veut vraiment cette unité de cœur, et moi j'appelle les têtes hein, de ces réseaux à vraiment se unir, pas dans nos différences, mais dans ce que Dieu nous appelle, et que c'est l'amour. Amen.
Alors, moi, il y a plusieurs points que j'aimerais rejoindre. C'est vraiment que des gens puissent se convertir et comprendre l'amour que Dieu a pour eux. Ça, c'est vraiment ma prière. Et aussi, comme ça vient d'être dit, l'unité du corps du Christ et aussi l'édification du temple de Dieu. C'est nous qui sommes l'Église. On est le temple de Dieu, et vraiment que, plutôt parfois de penser à nous-mêmes, que vraiment tout le monde soit vraiment investi dans la construction du temple de Dieu, et c'est-à-dire dans les relations entre nous, mais aussi avec Dieu. Et pour ça, j'aimerais vous lire le passage dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vraiment que plus de présence de Christ dans nos vies et que vraiment on puisse vraiment refléter le Christ dans l'Église. Et voilà, c'est ma prière pour cette année.
Cette année, la France retrouve l'onction qui lui a été donnée, l'onction de Jean, qui inclut l'intimité, l'amour fraternel et la révélation du ciel ouvert. Le peuple français est un peuple de guerriers amoureux, un peuple de guerriers adorateurs, et les maisons de prière vont fleurir partout.
Quand Vito a demandé de fermer les yeux, j'ai fermé les yeux. Et puis, quand le Seigneur m'a montré quelque chose, je dis, ouais, je fais quoi ça? Comme d'habitude. Et je dis, mais bon, il a dit de le faire, je le fais. Il me dit quelque chose, je vous le transmets. Et puis, voilà. Donc, il m'a montré un œil ouvert, comme ça, sur le côté. Et c'était assez sombre. Et je voyais la pupille très, très dilatée. Et je demande au Seigneur. Et il a dit, quand tu ne vois rien, quand tu vois que c'est que des ténèbres, que c'est que sombre, c'est par rapport aux autres, c'est pas par rapport à soi-même, mais chez des personnes ou dans des situations, quand tu ne vois rien, regarde. Parce que c'est pas avec la pupille ordinaire que tu vois là où il y a de la lumière, c'est en regardant, en dilatant la paupière dans des choses sombres, là où tu as l'impression qu'il n'y a rien à espérer, que tu vas voir là où il y a des lueurs d'espoir, autant pour toi que pour les situations ou les personnes concernées. Des petites lueurs que tu ne peux voir que si tu regardes. Si tu vois simplement, tu subis et puis il n'y a rien à voir là. Voilà, une invitation à regarder, à persévérer, parce qu'il y a de la lumière à beaucoup d'endroits où on ne la voit pas. Voilà.
Merci. Oui, deux derniers. Après, on va s'arrêter. On pourrait continuer, mais je pense que pour certains, ça va être long.
Parole de Malachie. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors je ne viendrai pas détruire votre pays. Et moi, je veux proclamer sur la nation de France la guérison des familles. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça sera pour toutes les familles de France, au nom de Jésus.
Amen. Ce que j'ai à cœur, c'est ce verset dans Ésaïe 54. Il est écrit, il dit que l'Éternel est ton époux. Pour toutes celles qui n'ont pas d'époux, pour ceux qui n'ont pas d'épouse, souvenez-vous que l'Éternel est notre époux. Même pour ceux qui en ont, l'Éternel est notre époux. Et c'est le mot que l'Esprit me redonne. Épouser dans notre tête veut dire se marier, veut dire avoir un compagnon. Mais le mot épouser, la définition, c'est prendre la forme de. Dans le dictionnaire, c'est ça. Donc l'Éternel a pris ta forme. Le jour où j'ai lu ce verset avec mon arrière-plan culturel, j'ai pleuré. J'ai dit, t'as fait dire n'importe quoi. Dieu ne se marie pas avec les êtres humains. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, va et cherche. Cherche à savoir ce que veut dire le mot épouser. Le mot épouser veut dire prendre la forme d'eux. Et Dieu a pris notre forme dans la personne de Jésus. Là, je suis tombée à genoux. Je dis, oui, tu as pris la forme d'un être humain. Tu es née d'une femme. Tu as souffert, tu as connu la vie intra-utérine, tu as connu la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, le travail. Il était charpentier, il a connu les grosses commandes, les coups de bourre, manque de travail peut-être, certainement. L'Éternel est ton époux. Et de là, ce que l'Esprit m'a donné, c'est « je te prends au sérieux ». Alors, est-ce que toi, tu es d'accord de me prendre au sérieux ? Quel que soit ce que je te dis. Donc, je proclame sur chacun de nous qu'on prenne Dieu au sérieux. Autant dans les promesses que dans les recommandations, les avertissements et dans tout ce qu'il nous donne dans ce livre, la Bible. Voilà.
Merci. Alléluia. Merci pour votre participation, c'était riche. Et je crois que chacun a un regard différent sur les situations, mais chacune de vos prières ont amené un regard beaucoup plus complet. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Ma prière était celle que j'avais, mais les vôtres ont tout apporté quelque chose de bien plus grand. Et c'est tout un impact en tant qu'Église qu'on a lancé aujourd'hui sur notre nation de France, sur le temps de 2016. Et il y aura des choses à voir, effectivement. Juste un petit dernier témoignage. J'étais à Saint-Louis tout récemment, au mois de Noël, pour les fêtes, pour faire des courses.
Et je me suis rendu compte, j'ai vécu là-bas pendant longtemps, et chaque fois qu'on revenait de vacances, on sentait la tension dans l'air. Je me disais, mais c'est pas possible. Quelle tension il y a ici? Et on s'était dit, mais c'est parce que, ben voilà, on était en vacances, donc on revient ici, il y a la tension. Et j'ai revécu récemment la même chose en étant à Guébillère, en étant à Saint-Louis. Et je me suis rendu compte que pendant des années, on a vécu sous des esprits de colère, de dispute. Et je ne le savais même pas. Je ne l'avais pas vu. Et c'est intéressant de voir combien de fois il y a eu des disputes sur notre ville de Saint-Louis. Et parfois, justement, Dieu nous demande d'ouvrir les yeux, de voir qu'est-ce qui est vraiment derrière les situations pour pouvoir les affronter et changer le regard et changer la situation derrière. Mais il m'a fallu sortir de là où j'étais et au bout de 2-3 ans, dire « Ah, je n'avais pas vu ça pendant 20 ans. Pourtant, j'y étais. » J'étais aussi, comme dans tout ce que je voudrais raconter, aveugle sur une situation. Et Dieu a permis maintenant de le voir. Je ne sais pas si je peux changer quelque chose à Saint-Louis, mais mon regard a changé. Il y a la dispute là-bas dans l'air et ce n'est pas dû simplement aux êtres humains. Il y a vraiment quelque chose dans l'air. Papa, merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les proclamations. Merci pour les prises de conscience. Merci pour les consécrations. Merci pour toutes les prières qui ont été proclamées. Pour celles aussi qui ont été faites dans le silence. Et papa, on veut sceller ce qui a été dit en ton nom. On veut le sceller sur notre vie, sur notre nation, sur notre assemblée. Et que tu continues à être cette lumière qui nous conduit. Dans le nom de Jésus. Amen.